Voilà, nous faisons un bond prodigieux en avant de 30 000 ans et on arrive ici au 5e siècle après Jésus-Christ. Que se passe-t-il ici au 5e siècle après Jésus-Christ? Arrive en ce lieu un homme qu'on appelle un ermite. Savez-vous ce qu'est un ermite?
Quelqu'un qui vit tout seul et qui prie.
Un homme qui vit seul, très bien. Pourquoi vit-il seul? Est-ce que c'est parce qu'il est misanthrope? Non. Quel est le but de cette solitude? C'est un homme qui cherche Dieu dans la solitude et la prière. Cet ermite, il a un nom qui va vous dire quelque chose, du moins j'espère. Sinon, ça veut dire que vous êtes fatigué. Il s'appelle Amadour. Ça vous dit quelque chose, ça, Amadour?
Le roc Amadour.
Roc Amadour, bien sûr, vous l'avez deviné. Il a donné son nom au lieu. Il a une particularité, notre bon Amadour, c'est qu'il aime beaucoup la Sainte Vierge. Il a sculpté une petite statue de la Vierge qu'il a placée au creux du rocher et c'est devant elle qu'il prie. Il réussit si bien dans ce qu'il est venu chercher ici, savoir Dieu, qui devient un... Et vous savez que les saints, tirent eux, dans la région, se passe ce tuyau. Allez voir Amadour, il est drôlement branché avec le bon Dieu. Demandez-lui des prières et des conseils. Et ça mord sa coutume de venir ici prier avec Amadour devant la statue de la Vierge. Les années passent, Amadour meurt, et on aurait pu croire qu'à la mort d'Amadour, cesserait la coutume de venir en ce lieu. Il n'en est rien. On continue à venir ici tout simplement parce que la statue, elle est toujours là. Et on vient ici de plus en plus loin. Au point qu'en 778, Roland, le neveu de Charlemagne qui descend de Bretagne vers les Pyrénées pour repousser les Sarrasins qui tentent de les franchir, va faire escale ici à Rocamadour pour consacrer sa personne et son épée, la Durandal, à la Vierge Marie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dès le 8e siècle, dans le nord du pays, on connaît l'existence du sanctuaire et qu'on est prêt à faire un détour, car c'est un lieu difficile d'accès, relativement enclavé. Si vous voulez, le sanctuaire a déjà une notoriété nationale. L'an 1000, ce sont les premiers documents écrits attestant de la donation du sanctuaire à des moines bénédictins de l'abbaye de Marciac-sur-Célé, 50 km au sud, qui reçoivent la mission d'accueillir les pèlerins qui arrivent ici. Mais rapidement, nos bons moines vont être complètement dépassés par les événements, car vous avez ici des foules de plus en plus nombreuses qui arrivent. Ils appellent à leur rescousse leurs frères bénédictins de l'abbaye de Saint-Martin de Tulle, abbaye plus importante et mieux organisée, et on va vraiment, à partir de là, entrer dans l'âge d'or du sanctuaire, 12e, 13e siècle. Giraud d'Escorail, en 1152, qui est le père abbé de Saint-Martin de Tulle, décide de résoudre les deux problèmes majeurs qui se posent ici. Premier problème, je vous l'ai dit, vous avez ici des foules considérables qui arrivent. Or, vous n'avez jusqu'à présent qu'une toute petite chapelle de 8 mètres carrés dédiée à la Vierge. Comment voulez-vous faire entrer dans 8 mètres carrés des centaines de personnes? C'est impossible, il faut donc construire une grande église. Mais voyez-vous, le second problème auquel est confronté Géraud, c'est que les gens qui sont paisiblement assis sur les bancs là-bas, s'ils avaient été avant Géraud, ils auraient fait une chute de 30 mètres dans le vide et se seraient fracassés sur les rochers en contrebas. Il faut donc gagner sur le vide. Pour cela, Géraud fait construire une crypte, c'est-à-dire une église souterraine qui va permettre d'étendre la surface bâtissable et de construire la très grande église Saint-Sauveur. Toujours de cette époque-là, le grand escalier sacré avec ses 217 marches qui permet enfin d'accéder facilement au sanctuaire. Et nous terminerons notre visite par ce pur joyeux 12e siècle, la petite chapelle Saint-Michel, littéralement ventousée à la paroi. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui explique que les gens viennent si nombreux en ce lieu? Les miracles. Vous l'avez dit, vous êtes ici sur le Lourdes du Moyen-Âge. Il y a quantité de phénomènes inexplicables par les seules forces de la nature. Un des moines bénédictins consigne soigneusement sur un manuscrit, on le possède toujours, il est gardé à la Bibliothèque nationale, il s'appelle le Livre des Miracles, 126 faits extraordinaires obtenus par l'intercession de Notre-Dame de Rocamadour, et je vous montrerai tout à l'heure, au cours de la visite, un facsimilé de ce Livre des Miracles. Des miracles, effectivement. Mais ce qui va définitivement consacrer la réputation internationale de Rocamadour, c'est un fait tout à fait inattendu. Nous sommes en 1166. Un habitant du bourg meurt. Jusque-là, rien d'extraordinaire, ça arrive. Mais ce qui est fort intéressant, c'est que cet habitant demande à être enterré le plus proche possible de la chapelle Notre-Dame. On lui creuse sa tombe. Et là, on découvre, au stupeur, le corps parfaitement intact d'un homme mort depuis des siècles. Et je vous donne pour mille de qui est ce corps? Amadour, vous l'avez deviné, on vient de retrouver le corps d'Amadour. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toute l'Europe et on se jette sur les routes pour aller contempler ce prodige extraordinaire, la conservation d'un corps mort depuis des siècles. Alors vous le voyez ici, vous avez tous les ingrédients pour faire le succès d'un sanctuaire. Alors petite parenthèse à géographique quand même, avant de passer à la suite. Vous savez que ce n'est pas un fait inédit dans la vie des saints de retrouver comme ça, longtemps après leur mort, des corps intacts. Vous connaissez tous Lourdes et Bernadette Soubirous, qui a vu 18 fois la Vierge à Lourdes. Eh bien, vous savez que lorsque 30 ans après sa mort, on a ouvert son cercueil, ça fait partie de la procédure de canonisation. On a eu la stupéfaction, elle aussi, de la retrouver parfaitement intacte. Alors qu'elle était morte de la tuberculose, qui amorce sa corruption intérieure, qu'elle était enterrée en un lieu extrêmement humide, tous les objets qu'elle portait sur elle, y compris son chapelet métallique qui était complètement corrodé, mais son corps, il était frais, il était souple, on avait l'impression qu'elle venait de mourir. Et si un jour d'aventure vous passez du côté de Nevers, eh bien arrêtez-vous dans la chapelle des sœurs de Nevers. Vous la verrez dans sa chasse envers Bernadette. Elle n'a pas pris une ride. Elle se porte comme un charme. Elle a vraiment une pêche d'enfer. Non, pas d'enfer, j'ai une excellente forme. Et je vous souhaite, à son âge, d'avoir exactement la même forme olympique. Eh bien, c'est exactement le même phénomène que nous avons ici. On place le corps d'Amadour dans sa crypte et pendant des siècles, les pèlerins vont se succéder pour contempler ébahi ce prodige extraordinaire, la conservation du corps d'Amadour. Alors vous voyez ici, vous avez tous les ingrédients pour faire le succès d'un sanctuaire. Vous avez des miracles, un miracle permanent, la conservation du corps d'Amadour, et puis les reliques, les restes des saints, le corps d'Amadour. Pour vous dire un peu l'importance du sanctuaire de Rocamadour au XIIe siècle, le pape Pascal II déclare que dans la chrétienté, il y a quatre très très grands lieux de pèlerinage. Vous avez déjà deviné que Rocamadour est l'un d'eux et je vous laisse deviner quels sont les trois autres très grands lieux de pèlerinage dans la chrétienté au XIIe siècle. Jérusalem, la ville sainte, là où le Christ est mort et resté, c'est bien sûr le tombeau du Christ, le premier et le plus important de tous les pèlerinages chrétiens. Et de un, Rome, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le centre de toute l'église catholique, bien évidemment. Il en reste un facile. Saint-Jacques de Compostelle, la tombe de Saint-Jacques le Majeur, apôtre privilégié du Christ qui se trouve au nord de l'Espagne et qui attire des foules nombreuses depuis le 9e siècle. C'est pour vous dire que vraiment, Rocamadour, c'est du très, 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 très haut de gamme sur le marché du sanctuaire, si je puis parler ainsi. Donc 12e, 13e siècle, vraiment, âge d'or du sanctuaire. Et voilà qu'on en arrive au sinistre 14e siècle. Ce siècle est sinistre en raison des fléaux qui le frappent. Quels sont les grands fléaux qui marquent le 14e siècle et qui vont provoquer le déclin du sanctuaire? La grande peste noire de 1348 qui tue plus de la moitié de la population européenne. Vous avez des barrières de quarantaine un peu partout. Bref, c'est pas le moment d'aller se balader pour attraper les miasmes de cette terrible maladie. Quel est le second grand cataclysme qui marque ce 14e siècle et qui va provoquer le déclin du sanctuaire? La guerre de Cent Ans. Vous êtes ici sur les terres d'Aliénor d'Aquitaine. À l'époque, les Anglais sont partout dans la région. Ce qui est d'ailleurs toujours aussi un peu vrai à notre époque. Hein? Mais de façon plus pacifique, fort heureusement. Ils sont maîtres des lieux. Vous imaginez que ce n'est pas dans ces conditions qu'il faut aller se balader pour attraper une flèche perdue en pleine tête. Tout cela ralentit l'activité du sanctuaire. Avec cependant des sursauts. 1428, on est dans une phase critique de la guerre de Cent Ans. Le petit roi de Bourges est sur le point d'être définitivement écrasé par son rival, le roi d'Angleterre. Ne voyant aucun secours du côté de la terre, il va se tourner vers le ciel et demander au pape Martin V d'ordonner qu'il y ait ici un grand jubilé où les pèlerins viendront prier pour la libération de la France. 1428, je vous l'ai dit, quel est l'événement qui se produit un an plus tard et qui retourne complètement le cours de la guerre de Cent Ans? Jeanne d'Arc, la petite bergère de Lorraine, qui s'entend appeler par Dieu pour aller trouver le roi de France, elle lui révèle un secret qu'il est le seul à connaître. Ce qui lui convainc bien qu'elle vient de la part de Dieu. Il lui confie ses meilleurs chevaliers. Elle fonce sur Orléans, fait le siège, le conduit à Reims sous les sacrés. Son autorité est définitivement affermie et les Anglais repartent dans leur pays quelques années plus tard. Vous le voyez, l'histoire du sanctuaire est intimement liée à l'histoire de notre pays. 1476, un énorme bloc de la paroisse se détache et vient écraser la petite chapelle Notre-Dame du 12e. Alors, rassurez-vous, ça n'arrive jamais pendant les visites, hein, c'est calculé pour, donc pas de panique. En attendant, eh bien, il faut la reconstruire dans le style gothique flamboyant de l'époque qu'elle a conservé jusqu'à nos jours. Et voilà que chemin faisant, on en arrive au siècle qui va donner le coup de grâce au sanctuaire de Rocamadour. Ce siècle, c'est le 16e siècle. Quel est l'événement religieux majeur du 16e siècle ? La réforme, Luther, 1517 en Allemagne, répand des thèses qui vont mettre l'Europe à feu et à sang. Ils avaient signé une troupe de huguenots qui, avec à leur tête le capitaine Bessoni, attaquent et pillent tous les sanctuaires du Haut-Quercy. Ils avaient ici un trésor fabuleux. Des rois sont venus en pèlerinage, ils ont fait des cadeaux somptueux. Tout cela attire les convoitises. Bessoni et ses hommes prennent le sanctuaire, le pillent et le saccagent. Et comme ils sont protestants, il y a une chose qu'ils détestent particulièrement ici. La Vierge, nos bons moines l'ont cachée avant qu'il n'arrive. Il y a une chose qu'ils n'ont pas eu le temps de cacher, plus encombrante. Les reliques. Les restes d'Amadour. Alors, il est toujours en pleine forme, Amadour, dans sa crypte. Eh bien, il va passer un sale quart d'heure entre les mains de Bessoni et ses hommes. Bessoni veut faire disparaître cette affreuse superstition. Il organise un grand feu de joie sur le parvis et jette le corps au feu. Manque de chance, le corps ne veut pas brûler. Il pense que c'est qu'une question d'intensité de la flamme. Ajoute du bois, attise le feu, rejette le corps, qui reste définitivement réfractaire aux flammes. Pris de rage, il le découpe à la hache en petites pièces et le jette au feu. Cette fois-ci, le comte d'Amadour est bon. Cependant, de pieux habitants du village ont recueilli certains de ses restes, de ses reliques, et cela est fort intéressant, car cela permettra de trancher une énigme historique au sujet de l'identité d'Amadour. Certains n'hésitent pas à identifier Amadour avec Zachée, le publicain converti par Jésus à Jéricho. Alors je le concède, la chose semble franchement tirée par les cheveux. Hein. Et on se demande ce qu'un type de Jéricho serait venu faire ici au 1er siècle de notre ère. Mais enfin, vous savez, dans l'histoire, il y a parfois des choses étonnantes. Si réellement la datation de ces eaux montre bien qu'il remonte au 1er siècle, eh bien, il ne sera pas interdit de croire cette ancienne tradition, suspense insoutenable sur lequel je vous laisse. J'espère cependant que cela ne vous empêchera pas de dormir ce soir. Et à vrai dire, j'ai quand même peu d'inquiétude sur le sujet. Donc à partir de là, vous le comprenez, le sanctuaire a perdu énormément de son intérêt. Lorsque la Révolution française éclate, il n'y a plus ici que deux chanoines qui vont aller se cacher dans le village pour ne pas avoir la tête tranchée. Et le sanctuaire sert de carrière de pierre. J'aime autant vous dire qu'ici, au début du 19e siècle, vous êtes au milieu d'un champ de ruines. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors que s'est-il passé entre les deux ? Un événement inattendu. L'abbé Caillot, prêtre du diocèse de Paris, malade d'une maladie incurable, passe ici au sanctuaire et célèbre dans ce qui reste de la chapelle Notre-Dame une messe. Au cours de cette messe, il est subitement guéri de sa maladie. Il a de ce fait une reconnaissance éternelle envers Notre-Dame de Rocamadour et décide d'organiser sur sa cassette personnelle qui est fort copieuse, ça tombe très bien, la reconstruction du sanctuaire. Il fait pour cela appel à un élève de Viollet-le-Duc, l'abbé Cheval de Montauban, qui va remplacer les pierres qui ont été volées, refaire les toitures et donner au sanctuaire l'aspect qu'il a conservé jusqu'à nos jours. Parallèlement à cette reconstruction matérielle, a lieu un relancement spirituel du pèlerinage, car le bienheureux Pierre Bonhomme, curé de Gramat, prend la coutume de faire venir ici ses oies en pèlerinage et il va faire école dans tout le sud-ouest. On reviendra ici en pèlerinage et de nos jours encore, vous avez ici tous les jours des pèlerins qui arrivent, bien que la majorité des visiteurs soient bien sûr des touristes. Excellent, vous êtes extrêmement perspicace, on ne peut rien vous cacher, ce qui est de bon augure pour la suite de la visite, car il y a encore bien des énigmes à résoudre et autrement plus difficiles que celle-ci. On a terminé la revue historique du sanctuaire et nous allons maintenant faire le passionnant tour dans les différentes chapelles du sanctuaire. Mais avant cela, il est indispensable que je vous donne les clés de lecture de ce lieu. Et pour cela, il faut faire quelques petits rappels. Qu'est-ce que tout le monde désire, veut et ne peut pas ne pas vouloir ? Le bonheur, tout le monde veut être heureux et personne ne peut pas ne pas vouloir être heureux. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment nous sommes du Moyen-Âge contre être heureux. Qu'est-ce que le bonheur pour un homme du Moyen-Âge ? Et il faut bien sûr se remettre dans leur mentalité. Voilà, exactement. Les hommes du Moyen Âge ont une foi à transporter les montagnes. Et quand on a la foi, le bonheur, c'est au paradis dans la vie éternelle. Or, nos pèlerins ont ici à disposition des moyens extraordinaires qui leur permettent de pouvoir un jour espérer parvenir à la béatitude éternelle. Ces moyens, ce sont des signes sensibles, des choses que l'on peut voir, que l'on peut entendre, qui sont généralement associées à la prière d'un prêtre et qui communiquent ce qu'on appelle dans le langage théologique la grâce, c'est-à-dire les arts, les prémices de la vie éternelle. Ces moyens, ils ont un nom bien particulier dans la religion catholique, ça s'appelle bien sûr les sacrements. Excellent. Combien y a-t-il de sacrements? 7. Vous en êtes sûr? Vous en mettez vos têtes sur bio? Ah, vous n'en êtes pas sûr, je testais la solidité de vos convictions. Eh bien si, il y a bien 7 sacrements, c'est même un dogme de notre foi. Eh bien nous allons faire le tour des 7 chapelles qui sont chacune associées à chacun des sacrements. Et dans chacune de ces chapelles, le pèlerin va recevoir un sacrement, espérant un jour pouvoir parvenir à la béatitude éternelle. On va tout de suite commencer par la chapelle qui est juste derrière moi. Comme vous êtes très observateur, il ne nous a pas échappé qu'elle avait une forme octogonale, qui est une forme caractéristique d'un certain édifice religieux, à savoir... Baptistère, très bien. D'ailleurs, quel est le premier sacrement qu'on compte dans la vie chrétienne? Le baptême, très logiquement. Nous commençons par le baptistère. Pour la visite, ça va être difficile à l'intérieur. Ouais, hein. Il y a une visite pour les enfants qui commence dans 3-4 minutes. Vous l'aviez déjà suivi, cette visite? Les pieds en compote, quand même, c'était assez difficile à deviner, non? Les pieds en compote. Bon, avancez bien pour que tout le monde puisse entrer. Il faut bien occuper tout l'espace, le groupe. Est plutôt assez nombreux, donc pour que tout le monde puisse entrer, il faut être bien réparti dans le baptistère. Avancez même, passez derrière là sur l'autel, ça va le faire sans problème. Voilà, là aussi il faut occuper tout ça, hein. Tout ça c'est occupé, voilà. Avancez, ne restez pas là, hop, voilà, mettez-vous là, qu'on puisse avancez, il faut bien occuper tout l'espace. Voilà, avancez encore, il y a plein de place là. Voilà, avancez. Voilà, avancez, il y a encore plein de place devant là. Avancez, il y a encore plein de place devant là. Il faut bien occuper tout l'espace. Je vois qu'il y a des gens qui sont encore à l'extérieur. Voilà, donc dans un baptistère, vous n'êtes pas surpris de trouver une cuve baptismale. Vous avez tous au moins une fois dans votre vie assisté au baptême d'un enfant. On place l'enfant au-dessus des fonts baptismaux. Le prêtre prend de l'eau avec une coquille, autre chose, peu importe. La verse sur le front de l'enfant en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». À ce moment-là, l'âme de l'enfant est lavée de ce qu'on appelle le péché originel. Dieu vient habiter son cœur, nous sommes le temple de l'Esprit-Saint, comme nous rappelle saint Paul dans l'une de ses épîtres. Et c'est donc un très grand moment dans la vie du chrétien que le baptême, car c'est une sorte de naissance à la vie divine. Alors là, vous devriez être un peu surpris. Parce que je vous l'ai dit, nos pèlerins viennent ici pour recevoir des sacrements. Mais à votre avis, nos pèlerins du Moyen-Âge qui arrivent ici, est-ce qu'ils ne sont pas baptisés depuis fort longtemps? Et si, au Moyen-Âge, on baptise le jour de votre naissance? Allez, si vous naissez à minuit, on attend le lendemain pour ne pas réveiller le curé. Mais en gros, dans les 2 jours qui suivent, vous êtes baptisé. Et vous savez que nous ne connaissons la date de naissance des hommes de l'Ancien Régime que grâce au registre de baptême qui servait à l'époque de registre d'état civil. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici s'ils sont déjà baptisés? Est-ce qu'ils viennent se faire rebaptiser? La première fois, ça a médiocrement marché, c'est ça, on en remet une couche? Je ne sais pas, je pose la question. Non, on est baptisé une fois pour toutes. Cela imprime un caractère surnaturel dans l'âme qui demeure, qu'on soit au ciel ou en enfer, on reste baptisé. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, s'ils sont déjà baptisés et qu'on ne peut pas se faire rebaptiser?
Confirmer.
Ah, la confirmation, c'est un autre sacrement. Ça... Voilà, exactement. Vous savez qu'être baptisé, c'est s'engager à suivre Jésus-Christ et à renoncer à Satan. Mais il est bien évident que lorsqu'on a un jour, cet engagement, il est loin d'être personnel et on a besoin de le faire sien lorsqu'on atteint l'âge adulte. C'est effectivement ce qu'on appelle renouveler les promesses du baptême, ce que d'ailleurs tous les catholiques font le soir de la vigile pascale et ce que nos pèlerins vont pouvoir venir faire ici. a remarqué sur les parois du baptistère un certain nombre de portraits d'hommes célèbres venus ici en pèlerinage. Vous le constatez, tous les pèlerins ici représentés appartiennent à la sphère politique. Ce sont des rois, des reines, des chevaliers, mais il faut aussi savoir qu'il y a eu de très grands saints qui sont venus ici en pèlerinage. Par exemple, en 1147, Saint Bernard, celui qu'on a surnommé la lumière du XIIe siècle, le réformateur de l'ordre de Cîteaux, qui va donner à cet ordre monastique une prodigieuse expansion dans toute l'Europe, un homme vraiment considérable pour son temps, puisqu'il discute avec les rois, il remet même dans le droit chemin le pape Eugène III qui file du mauvais coton et qui est un de ses disciples, il prêche la seconde croisade à Vézelay, bref, c'est vraiment un homme tout à fait de grande envergure, et donc il vient ici en 1147. Quelques années plus tard, vous avez un autre très grand saint qui vient ici, Saint Dominique, le fondateur de l'ordre des prêcheurs, 1219, qui va passer toute une nuit de prière devant la statue de Notre-Dame de Rocamadour devant laquelle nous allons passer tout à l'heure. C'est assez émouvant ces objets comme ça qui font le pont entre les siècles et les générations. Et puis très peu de temps après lui, vous avez un autre saint qui vient ici qui est très populaire. Vous savez que lorsque vous rentrez dans à peu près toutes les églises de France et de Navarre, il y a toujours deux statues de saints que vous retrouvez, mis à part la Sainte Vierge, quelles sont les deux statues de saints qu'on retrouve dans toutes les églises de France et de Navarre à peu près ? Saint Antoine de Padoue, exactement. Vous savez, c'est celui qu'on prie lorsqu'on a perdu un objet. Et ça marche rudement bien. Ce qui fait qu'il a une popularité considérable, car nous avons tendance à être distraits. Je connais même des athées qui prient Saint Antoine de Padoue. C'est pour vous dire que vraiment, il a un rayonnement bien au-delà des frontières de l'Église. Et puis, pour info, le deuxième saint, donc il vient ici en 1226. Et puis, le deuxième saint, c'est une sainte, en fait. Je l'ai entendu ? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite carmélite de Lisieux, qui est effectivement très aimée par les Français depuis le XXe siècle. Mais alors, elle n'est pas vue ici, par contre. Mais c'était juste pour votre culture générale. La prochaine fois que vous rentrez dans une église, vous cherchez votre Saint Antoine et votre Sainte Thérèse, et quasiment à tous les coups, vous avez gagné. Donc, c'est pour vous dire qu'en venant ici, vous avez vraiment mis vos pas dans les pas de très grands hommes. Mais le plus célèbre de tous les pèlerins de Rocamadour, c'est celui qui est juste derrière moi, Saint Louis, roi de France, venu ici en 1244 avec sa maman Blanche de Castille. Alors pourquoi vient-il ici, Saint Louis ? Pour le savoir, il faut vous rappeler de votre histoire de France. Vous vous souvenez que Saint Louis écrase les Anglais à la bataille de Taillebourg près de Saintes en 1242. Mais hélas, lorsqu'il rentre à Paris, il est frappé d'une terrible dysenterie qui le conduit aux portes de la mort. Quand je dis le conduit aux portes de la mort, il faudrait être plus exact. Les contemporains l'ont estimé mort et on l'a déjà enveloppé dans son linceul mortuaire. Mais sa sainte maman, Blanche de Castille, ne se résout pas à voir partir ce fils tant aimé, et en plus qui gouverne si bien le pays. Elle va aller chercher dans le trésor familial des reliques qu'elle va placer sur le corps de son fils, et elle va adresser à la reine des cieux une ardente supplication. Contre toute attente, de dessous le linge mortuaire, s'élève une voix sépulcrale. Le Seigneur m'a fait miséricorde. Saint Louis revient à la vie et vous le comprenez. S'il vient ici, c'est bien sûr pour remercier Notre-Dame de cette grâce extraordinaire, une résurrection. Saint Louis comprend aussi que si Dieu lui prête vie, c'est afin d'accomplir une mission. Celle d'aller libérer le tombeau du Christ qui est occupé par les Sarrasins qui massacrent impitoyablement les pauvres pèlerins désarmés qui se rendent à Jérusalem, et ce sera l'origine de la 7e puis de la 8e croisade, expédition périlleuse dans laquelle Saint Louis laissera la vie en 1270 à Tunis, vous vous en rappelez. Alors vous le comprenez, s'il vient ici, c'est certainement pour remercier, mais également pour confier cette opération militaire aventureuse. Alors les chroniqueurs nous racontent que Saint Louis, en tenue de pénitent, a gravi le grand escalier, priant sur chaque marche un « Je vous salue Marie ». Cela fait rêver où ce temps où les gens qui nous dirigeaient étaient pieux et humbles. Autre temps, autre mœurs. Remarquez que Saint Louis porte quelque chose dans ses mains. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? Couronne d'épines, c'est quoi cette couronne d'épines ? Qu'est-ce que c'est que cette couronne d'épines ? C'est une relique de la Passion du Christ. Vous savez pourquoi Saint Louis la porte, cette relique ? On n'achète pas des reliques, ce serait un affreux péché de simonie qui aurait empêché de canoniser Saint Louis. On donne des grosses compensations financières. C'est un peu jésuite, j'en conviens, mais il faut être précis dans les termes, sinon on tombe dans d'affreuses hérésies. Donc il a donné une très grosse compensation financière, l'équivalent du budget annuel de la France, pour faire venir cette précieuse relique qui était propriété des Byzantins, grand collectionneur de reliques devant l'Éternel, comme tout le monde sait, qu'il avait cédé en gage aux Byzantins, qui, moyennant d'habiles négociations, il faut être habile pour négocier avec les Vénitiens, parce que ce sont de rudes négociateurs, et bien Saint Louis a pu la faire venir en France, et il a fait construire un édifice célèbre pour l'abriter, cette couronne. La Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité, bravo, vous êtes extrêmement cultivé. On a terminé pour le baptistère. Vous allez sortir, prendre sur votre droite et m'attendre à l'extérieur de la chapelle suivante. La visite continue. Voilà, nous sommes ici devant la chapelle Saint-Blaise. Saint-Blaise, c'est un saint évêque arménien du 4e siècle mort martyr qui a la particularité d'être ce qu'on appelle un saint thaumaturge. Savez-vous ce qu'est un saint thaumaturge ? Un saint qui fait des miracles de guérison, effectivement. À partir de là, il est facile de deviner quel va être le sacrement associé à cette chapelle. Encore faut-il connaître ces sacrements, bien évidemment. Exactement, le sacrement des malades. La maladie est un temps d'épreuve, un temps de tentation. On a besoin des secours du Christ pour affronter sereinement ce moment difficile. Le prêtre va faire des onctions d'huile sur le corps du malade qui recevra une grâce qui va lui apporter paix et sérénité, surtout qui va lui permettre d'offrir sa souffrance en union avec celle du Christ sur la croix pour en faire une œuvre de rédemption pour lui et pour le monde entier. Et on obtient aussi parfois des effets étonnants avec ce sacrement. Je connaissais une personne malade en phase terminale d'un cancer qui, après avoir reçu le sacrement des malades, a une rémission de vie de 10 ans. Ce n'est pas l'effet habituel, mais cela peut arriver. On ne va pas entrer dans la chapelle Saint-Blaise qui est toujours ouverte au public. Il faudra absolument que vous ayez jeté un petit coup d'œil après la visite. Mais par contre, la chapelle suivante, elle est habituellement fermée et beaucoup plus intéressante. Je vous invite à me suivre. Direction la chapelle suivante. Voilà, donc ici nous sommes dans la chapelle Sainte-Anne. Savez-vous qui est Sainte-Anne ?
La mère de Marie.
La mère de Marie, très bien. Vous connaissez le nom de son mari ?
Joachim.
Joachim, très bien. Le nom de son beau-fils ? Ah, je suis sûr que vous le connaissez, c'est de la généalogie, un petit peu de gymnastique d'esprit. Joseph, bien évidemment, le beau-fils et le mari de la fille, jusqu'à preuve du contraire. Et le nom du petit-fils ?
Jésus.
Jésus, bravo. Vous l'avez deviné. Ici, on est dans le sacrement qui est lié à la famille. Quel est le sacrement qui est au fondement de la famille ? Le mariage. Nos pèlerins vont venir ici prier pour leur famille. Dans les familles, il y a des moments de joie, mais il peut y avoir des moments très douloureux, des crises, des séparations, notamment au moment des transmissions d'héritage. Heureux, les parents qui n'ont rien à donner à leurs enfants, cela évite énormément d'ennuis. Bref, nos pèlerins vont venir ici s'adresser à deux intercesseurs particulièrement qualifiés, Sainte-Anne et Saint-Joachim, pour obtenir la paix dans leur famille. Dans cette chapelle Sainte-Anne, vous voyez ce beau retable en bois doré du XVIIe siècle qui se trouvait initialement dans la chapelle de la Vierge, mais lors de la restauration du XIXe siècle, on l'a transféré ici. Vous le constatez, c'est un retable éminemment marial, c'est-à-dire entièrement décoré avec des scènes issues de la vie de la Vierge Marie. Quelle est la scène célèbre de l'Évangile que nous avons ici sur notre droite ? L'Annonciation, c'est le moment où l'ange Gabriel vient annoncer à la Vierge qu'elle serait la mère du Sauveur. Et 9 mois plus tard, nous avons bien sûr la nativité. Plus difficile, sur le bas-relief de l'autel, de quoi s'agit-il ?
L'Assomption, la Dormition.
Alors, la Dormition, il faudrait qu'on voie le corps de la Vierge Marie, mais est-ce que vous le voyez ? Effectivement, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Regardez, vous avez non pas une table mais un tombeau au centre. Vous avez les saintes femmes et les apôtres qui ont l'air perplexes. Regardez, ils sont en train de palper un linceul qui a enveloppé le corps de la Vierge Marie, mais ce corps, il a disparu. Ils se demandent vraiment où est-ce qu'il a bien pu passer. Mais regardez ici nos deux apôtres qui ont la bonne idée de lever la tête. Ils la voient. Elle est en train d'être élevée corps et âme au ciel. D'ailleurs, cette petite nuée qu'on appelle la Tchékina dans la Bible, qui symbolise cette présence d'action divine, eh bien, c'est le fameux dogme de l'Assomption qui nous dit qu'au terme de sa vie terrestre, la Vierge Marie a été élevée corps et âme au ciel, qui représentait ce dogme sur ce tableau, qui se trouvait à l'origine au centre du retable. Mais pour y voir un peu clair dans cette chapelle, on l'a déporté sur le côté. Donc, si vous voulez, ce bas-relief, c'est l'Assomption vue d'en bas. En haut, la petite niche. C'est là que se trouvait ce que tout le monde vient voir ici à Rocamadour, à savoir cette statue de Notre-Dame de Rocamadour du XIIe siècle représentant la Vierge assise en majesté portant sur ses genoux l'enfant Jésus. C'est un thème archi-classique de l'iconographie romane qu'on appelle un trône de sagesse puisque la Vierge fait de ses genoux un trône à celui qui est la sagesse éternelle, le Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Cette Vierge, elle a la particularité d'être noire. Et on s'est longtemps demandé pourquoi cette Vierge était noire. Certains ont dit, c'est tout simple, elle est en noyer. Et vous savez que le noyer, en vieillissant, noircit. Et c'est pour ça qu'elle serait noire. D'autres ont dit, mais c'est encore plus simple. Elle a été pendant des siècles dans un sanctuaire au brûle des cierges qui dégage de la suie et qui noircit tout ce qui est alentour. Et c'est pour ça qu'elle est noire. Mais ces explications, bien matérielles, ne sont pas satisfaisantes. Car vous avez en France 150 Vierges noires et 1000 en Europe. Et par ailleurs, sous la Vierge noire d'Orcival, on a gratté sa peau et on s'est rendu compte qu'elle était initialement polychrome. C'est donc qu'il y a de la part des artistes une volonté délibérée de faire des vierges noires. Alors pourquoi veulent-ils faire des vierges noires? Eh bien c'est bien sûr, vous l'avez compris, du côté des interprétations spirituelles qu'il faut aller chercher. Et celle que nous retenons ici, eh bien c'est celle qui est inscrite au sommet du rétable là-haut. Arrivez-vous à lire la phrase qui est écrite là-haut? Nigra sum sed formosa. C'est quelle langue ça? Latin, très bien. Et ça veut dire quoi?
Je suis
noir. Bravo, je suis noir mais belle, effectivement. C'est le quatrième verset du premier chapitre du Cantique des Cantiques. En appliquant ce verset à la Vierge Marie, on veut signifier la chose suivante. Je suis noir dans la Bible, c'est un langage codé. Cela veut dire j'ai connu une très grande épreuve, une très grande douleur, une très grande souffrance. Et effectivement, la Vierge Marie a connu la chose la plus douloureuse qu'une maman puisse connaître. Elle a assisté en direct à la mise à mort d'une façon extrêmement cruelle de son fils Jésus. Je suis noir, j'ai souffert, mais je suis belle. Face à la souffrance, deux attitudes possibles. L'une qui consiste à s'enfermer dans la haine, la vengeance, la violence. Et l'autre qui consiste à conserver la foi, l'espérance et la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain. Et c'est bien sûr cette seconde attitude que la Vierge Marie a cultivée au pied de la croix. Je suis belle, j'ai conservé la beauté de mon cœur. Alors voyez-vous, en faisant une Vierge noire ici, on veut dire aux pèlerins qui arrivent ici, qui ont tous leurs épreuves, qui ont tous leurs croix, qui ont tous leurs souffrances, eh bien qu'ils ont une maman qui les comprend. Parce qu'elle a souffert, elle sait ce que c'est. Et elle leur donne une formidable leçon de choses. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est ce que j'ai fait au pied de la croix. Et regardez comme j'ai eu raison. Trois jours après, alors que tout semblait perdu, eh bien mon fils a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et vous-même, si vous savez porter votre croix avec foi, espérance et charité, vous-même, vous entrerez un jour dans la gloire de la résurrection. Et c'est donc un formidable message d'espérance que ces vierges noires. Vous savez d'ailleurs que la devise du sanctuaire, c'est l'espérance ferme comme le roc. Je vous promettais tout à l'heure un fac-similé du livre du miracle. Eh bien, il est là sur le côté. Ce qui m'intéresse, ce sont les deux enluminures. Que voyez-vous sur ces deux enluminures? Et s'il vous plaît, pas d'interprétation que du factuel. Bateau, excellent, et quoi encore? Et quoi? Des, j'ai entendu? J'en sais rien, moi, ils sont peut-être en forme, ces gens, j'en sais rien. Des moines, d'accord. Bon, ça s'appelle comment les gens sur les bateaux, ultimement? Marins, excellent, excellent, excellent. Des marins et des bateaux. Alors, à votre avis, pourquoi y a-t-il des marins et des bateaux sur le livre des miracles? Si vous avez bien écouté ce que c'est que le livre des miracles, eh bien, la réponse devrait fuser d'un seul coup.
Non.
Comment? Tout simplement, c'est que des marins ont bénéficié de protections extraordinaires de notre âme d'Ankamadour. Je vous rappelle que le livre des miracles relate eh bien, les protections extraordinaires obtenues par l'intercession de notre âme d'Ankamadour. Alors, là, ça devrait un peu vous surprendre. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais la mer est assez discrète dans les alentours. Comment se fait-il que les marins aient eu l'idée d'invoquer Notre-Dame de Rocamadour? Eh bien, je vais vous donner la réponse parce que vous ne pouvez pas la trouver tout seul. La réponse, c'est la photo qui est juste en dessous. Y en a-t-il qui reconnaissent ce lieu? Excellent, nous avons des Bretons, nous sommes sauvés, effectivement. Finistère, presqu'île du Crozon, extrémité des terres, on est au tout bout vraiment de l'isthme breton. À cet endroit-là, ce qui s'est passé au XIIe siècle, c'est que Henri de Plantagenet, qui est revenu deux fois ici en pèlerinage à Rocamadour, est tombé amoureux de Notre-Dame de Rocamadour. Lorsqu'il repart dans son pays, il fait construire à cet endroit-là une petite chapelle dédiée à Notre-Dame de Rocamadour. Si bien que les marins qui partent en mer, le dernier édifice religieux qu'ils voient, c'est une chapelle dédiée à Notre-Dame de Rocamadour. Ils vont prendre la coutume dans le milieu maritime de se confier à sa protection. Si le vent se lève, si la tempête éclate, ils invoquent Notre-Dame de Rocamadour. Et de fait, de nombreux marins devront le salut de leur embarcation et de leur équipage à des protections extraordinaires de Notre-Dame de Rocamadour. De ces sauvetages, je ne vous en raconterai qu'un seul en raison de la célébrité du bénéficiaire. Quel est le Français qui a exploré le Canada? Jacques Cartier, 1536, avant sur les eaux du Saint-Laurent avec la Grande Hermine. S'il avait un peu mieux connu le pays, il n'aurait jamais commis cette grave imprudence. Car nous sommes en plein hiver. Rapidement, son bateau est pris dans les glaces. Il va faire une exploration alentour pour trouver de quoi survivre. Et lorsqu'il revient à bord, il se rend compte d'une véritable catastrophe. Sur ses 110 hommes d'équipage, déjà 25 sont morts du scorbut. Il n'est pas long à prendre la mesure de la situation. À moins d'un miracle, ils sont perdus. Il va aller chercher dans sa cabine l'image de Notre-Dame de Rocamadour, qu'il a accompagné tout au long de ses explorations. Il va le placer sur un arbre, dont on connaît toujours l'emplacement, c'est dans l'actuelle ville de Québec. Il va organiser avec les marins valides une procession de supplications, promettant à la Reine des Cieux que si jamais elle étire de cette mauvaise passe, il viendra ici la remercier en action de grâce. Lorsque la prière est terminée, qu'ils reviennent à bord, ils croisent un Algonquin, qui leur offre une décoction de racines d'épinette, arbuste local, extrêmement riche en acide ascorbique, et c'est exactement ce qu'il leur faut pour retrouver la santé. Rapidement, l'équipage est remis sur pied et Jacques Cartier viendra ici remercier Notre-Dame du sauvetage inespéré. On a terminé pour Sainte-Anne, vous allez prendre l'escalier en face de vous et m'attendre devant la porte de la grande basilique Saint-Sauveur. La visite continue. Voilà, donc nous sommes ici dans la basilique Saint-Sauveur, qui est la plus grande des églises du sanctuaire. Cette église est intéressante à plus d'un titre. Tout d'abord, d'un point de vue architectural. Regardez le mur du fond. Vous le voyez, ce n'est pas un mur bâti en pierre, mais c'est tout simplement la falaise qui sert de mur. Nous sommes ici dans ce qui s'appelle une église troglodyte. Par ailleurs, il ne nous a pas échappé ici que nous avons des murs fort épais, des petites ouvertures caractéristiques de l'art roman, mais vous voyez apparaître sur ces voûtes ces croisées d'ogives qui commencent l'art gothique. On est en fait ici en plein style de transition entre art roman et art gothique. Autre élément architectural inhabituel pour une église, le fait que cette église soit à deux nefs. La nef de droite est réservée au Moyen-Âge aux religieux, séparée par une cloison, tandis que la nef où nous sommes est celle destinée aux pèlerins. Alors, quel est le sacrement que nos pèlerins vont venir chercher ici? Pour le savoir, il faut faire un petit retour en arrière. Je vous l'ai dit, au jour du baptême, on reçoit la vie divine. Mais cette vie divine, peut-on la perdre? Oui? Oui, comment peut-on la perdre? Par les péchés, effectivement. Est-ce que tous les péchés nous font perdre la vie divine? Non, ils ont un nom bien particulier. Ces péchés qui nous font perdre la vie divine, ce sont bien sûr les péchés... Alors, j'entends que c'est disputé, capitaux, mortels. Je vous rappelle que dans la liste des péchés capitaux, vous avez la gourmandise. Si la gourmandise nous faisait perdre le paradis, nous serions bien mal en point. Non, ils ont un autre nom, ces péchés qui nous font perdre la vie divine. Ce sont bien sûr les péchés mortels. On les appelle mortels justement parce qu'ils tuent en nous la vie divine. Alors c'est très simple à comprendre. Toute notre vie, c'est une vie d'amitié avec Dieu. Si vous faites une grosse crasse à un ami, votre amitié, elle en prend un coup. Eh bien, il y a certains actes qui signifient la rupture avec Dieu, et c'est effectivement ce qu'on appelle des péchés mortels. Alors, est-ce que c'est embêtant d'avoir un péché mortel sur la conscience? Oui, pourquoi? Parce que... Oui, alors il y en a certains que ça perturbe pas trop, à vrai dire. Bon, ils ont tort, hein, mais... Pourquoi c'est embêtant, ultimement? Voilà, parce qu'on n'ira pas au paradis. Ils le savent très bien, nos pèlerins. S'ils meurent en état de péché mortel, bien loin de monter au paradis, où vont-ils aller? En enfer. En enfer, on tire avec les diables pour l'éternité. Et ça, ils n'en veulent à aucun prix. Heureusement, il existe un sacrement formidable qui permet de retrouver la vie divine si jamais on l'a perdue. Ce sacrement, c'est bien sûr le sacrement de... Confession, effectivement, nos pèlerins vont se mettre à genoux devant le beau Christ en croix du XVIe siècle que vous avez là-bas. Ils vont réaliser que par leur péché, ils ont offensé le Christ. Ils vont en éprouver une immense contrition, un immense regret, car ils savent combien le Christ les aime. Et vous savez qu'il n'y a rien de plus douloureux que de faire de la peine à ceux qu'on aime. Ils vont aller trouver dans les boîtes qui sont au fond, ça s'appelle les confessionnaux, un prêtre pour avouer leur turpitude et recevoir le pardon de Dieu. D'un seul coup, leur âme va ressusciter, ils vont retrouver la grâce et ils vont enfin pouvoir accéder à un sacrement qu'ils ne pouvaient pas accéder jusqu'à présent et qui est le plus important de tous les sacrements dans la religion catholique, à savoir l'Eucharistie. C'est le plus important, car sous les apparences du pain et du vin se tient réellement, substantiellement Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre, et c'est donc un sacrement énorme que le sacrement de l'Eucharistie. Alors, petite parenthèse, il faudra absolument après la visite que vous descendiez dans la crypte Saint-Amadour, pur joyau du XIIe siècle. Sur l'autel, vous allez voir un espèce de soleil métallique. En fait, ça s'appelle un ostensoir. Et au centre de l'ostensoir, vous avez une hostie. Eh bien, vous allez être en présence de Dieu. Ça vaut quand même le détour, hein. On fait parfois des milliers de kilomètres pour aller voir des vedettes qui ne valent pas tripette. Eh bien là, vous avez une encablure de vous, le Seigneur est maître de toute chose qui se tient à présent. Ce serait trop bête de rater tête à tête. On a toujours un brin de causette à faire avec le bon Dieu. Donc après la visite, direction la crypte Saint-Amadour pour un entretien avec le Big Boss. Je referme mon dossier sur les sacrements et j'en reviens à mes miracles. Je vous l'ai dit, vous êtes ici sur le Lourdes du Moyen-Âge. Mais figurez-vous que des miracles, il n'y en a pas seulement au Moyen-Âge, il y en a encore de nos jours. Et je vous en racontais un relativement contemporain. Nous sommes en 1956. Une Anglaise paraplégique est descendue à Lourdes pour demander sa guérison, mais elle n'a pas été guérie. Lorsqu'elle revient vers son pays, elle fait escale ici à Rocamadour le 26 août. Date intéressante à remarquer, c'est la fête de Saint-Amadour. Et il y a à cette occasion-là, dans cette grande basilique, une grande messe en l'honneur de ce grand saint. Comme elle est malade, elle va être la première à communier à cet endroit-là précis des marches où est assise la jeune fille, là. Lorsque le prêtre lui porte l'hostie dans la bouche, elle sent ses jambes se fortifier, elle se redresse et elle crie « Je suis guérie !» Stupeur dans l'assemblée, le prêtre en est tout bouleversé. Il en perd son latin, on parlait à l'époque latin dans les églises. Dans l'assemblée, on se demande si on a bien entendu, si on a bien vu, si on n'a pas rêvé. On se pince. Après un instant d'hésitation, on réalise que c'est vrai. Et alors là, c'est une explosion de joie. Grand branle-bas de combat, on se jette dans les bras les uns des autres. Et on est très fiers ici à Rocamadour de penser que la Vierge a guéri ici et non pas à Lourdes. Il faut reconnaître que depuis que la Vierge a eu la très mauvaise idée d'apparaître à Massabielle, elle a ravi beaucoup de parts de marché au sanctuaire de Rocamadour, ce qui fait qu'on a toujours un petit pincement de cœur lorsqu'on évoque ce sanctuaire ici à Rocamadour. C'est bien sûr de l'humour, vous l'avez compris, bien que vous n'ayez pas ri, mais ce n'est pas grave. A remarquer à la sacristie, une copie de Notre-Dame de Rocamadour à qui il est arrivé quelque chose d'amusant en 2008 pour fêter le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec. Et vous savez maintenant le lien étroit qui est entre Québec et Rocamadour à cause de Jacques Cartier. Eh bien, il y a un grand événement religieux qu'on appelle un congrès eucharistique. Le recteur se dit, il faut absolument que ma statue aille trôner en bonne place dans ce grand événement religieux. Mais attention, Notre-Dame de Rocamadour, patronne des marins, ne voyage jamais par avion, mais seulement par bateau. Le recteur organise d'une façon assez exceptionnelle la descente fluviale de la statue sur les cours d'eau avoisinants. Elle descend la Dordogne, arrive à La Rochelle, cabote jusqu'à Brest où elle est embarquée sur un bâtiment de la Marine nationale, gonflé de recteur. Il avait appelé l'amiral en chef pour demander l'embarquement de sa statue. Il n'y a qu'une chose qu'il avait oubliée, c'était le retour. Or, je vous l'ai dit, pas question de la faire retourner par avion. Sur ces entrefaits, il apprend que va avoir lieu une régate célèbre, Québec-Saint-Malo. Il se dit, c'est l'occasion rêvée de faire revenir ma statue. Il va trouver les skippers pour négocier l'embarquement, mais rapidement, il se rend compte que la partie n'est pas gagnée. Car nos skippers sont extrêmement regardants sur le poids du bateau. Ils en pèsent des tubes de dentifrice. Et cette statue, qui ne paye pas de mine, elle pèse près de 8 kilos. Cependant, un des skippers, qui est loin d'être le favori, s'appelle Francky Vescoffier, accepte de la prendre à bord. Et bien lui en prie. Car cette course qui est généralement très serrée, hein, qui se joue à quelques centaines de mètres près pour les premiers arrivants, Francky, portant Notre-Dame de Rocamadour, va arriver avec 2 jours d'avance sur les poursuivants. Les journalistes, ébahis de sa performance, lui demandent son secret, et là il brandit Notre-Dame de Rocamadour, c'est elle qui m'a fait gagner la course. La mère de Dieu a le bras extrêmement long, et elle sait bien organiser les vents et les marées pour faire tout concourir à sa plus grande publicité. Sur ce coup-là, elle a vraiment très bien réussi son affaire. On a terminé pour Saint-Sauveur et nous allons maintenant nous diriger vers le cœur du sanctuaire, la chapelle Saint-Michel, la chapelle Notre-Dame. Veuillez me suivre et attacher vos ceintures. Voilà, nous sommes ici au cœur du sanctuaire puisque c'est ici que tout a commencé. Vous en rappelez, c'est ici qu'au 5e siècle, Amadour a placé au creux du rocher sa statue à la Vierge. Et c'est ici que depuis des siècles, les pèlerins se succèdent pour faire monter vers le ciel leurs supplications à la Reine des Cieux. Les roches qui sont ici sont comme chargées des siècles de prières des pèlerins qui se sont succédés en ce lieu. Notre-Dame de Rocamadour, la statue originale, eh bien, vous l'avez là au sommet de l'autel. Alors pourquoi les catholiques prient-ils la Vierge Marie ? C'est somme toute très simple à comprendre. C'est par elle que Dieu est venu jusqu'à nous et c'est aussi par elle dans son plan providentiel qu'il veut que nous allions jusqu'à lui. Marie est la mère du Christ, elle a de ce fait une connaissance hors pair de son Fils. Et elle veut nous transmettre cette science pour que nous puissions l'aimer et être sauvés, car le Christ est l'unique sauveur de tous les hommes. À remarquer au sommet de la voûte l'objet le plus ancien du sanctuaire. C'est une cloche à vrai dire, bien mystérieuse. Les experts se disputent pour en déterminer la date. 4e, 8e siècle, la fourchette est très large et la facture extrême orientale ou simplement occidentale, la question est débattue et non tranchée. Cette cloche, elle a une particularité qui devrait vous étonner. Il lui manque le mécanisme pour la faire sonner. En fait, c'est une cloche miraculeuse. Lorsqu'un marin en mer invoque Notre-Dame de Rocamadour et qu'il est sauvé, la cloche sonne spontanément. Vous avez sur la plaque de marbre qui est là-bas un certain nombre de dates où cette cloche a sonné d'elle-même. Lorsque la cloche sonne ici, le moine note soigneusement le jour et l'heure où elle a sonné. Et quelques mois, quelques années après, on voit arriver ici tout poudreux, tout exténué, un marin portant dans ses mains un ex-voto sur ses maquettes de bateau pour remercier Notre-Dame du sauvetage obtenu. On confronte alors la date notée sur le registre et la date du sauvetage, et s'il y a concordance, on en est sûr, le miracle a été obtenu par Notre-Dame de Rocamadour. Cette cloche, tenez-vous bien, elle sonne toujours de nos jours. Et je vais vous raconter dans quelles circonstances elle a encore récemment sonné. Nous sommes en 2007. Une jeune fille sociologiquement catholique, c'est-à-dire qu'elle était baptisée, mais elle a entièrement rejeté la religion chrétienne, étant persuadée que c'est une affreuse superstition, cause de toutes les guerres, décide de faire quelque chose de très à la mode de nos jours. La randonnée depuis le Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, absolument pas comme un pèlerinage, hein, mais pour capter des ondes telluriques. Lorsqu'on chasse une religion, il n'y a rien à faire, on en récupère toujours une autre. Parvenue à Figeac, 50 km au sud, elle sent comme un mystérieux appel intérieur à monter à Rocamadour. Elle n'a absolument pas prévu de faire ce détour, mais elle dira plus tard, dans la relation qu'elle fera des événements, que si elle n'avait pas obéi à cet appel intérieur, elle aurait comme le sentiment d'un rendez-vous raté. Elle arrive ici tard le soir au sanctuaire, elle entre dans la chapelle Notre-Dame où nous sommes, et là, se sent enveloppée d'une mystérieuse présence surnaturelle qui la bouleverse. Elle s'autorise, dit-elle, à être superstitieuse pour quelques heures. Elle va mettre un cierge pour demander que son cousin, bourguignon, agriculteur, 40 ans, paralysé depuis des années par une hernie, soit guéri. Le lendemain, avant de quitter le sanctuaire, elle achète une image de Notre-Dame de Rocamadour qu'elle place dans son sac. Lorsque la randonnée est terminée, qu'elle revient dans son pays, elle a la stupéfaction de trouver son cousin gambadant comme un lapin. Elle demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Une nuit, j'ai senti une grande chaleur m'envahir. J'ai eu très peur, j'ai cru que je mourais. Puis j'ai senti que mon dos se décoinçait. Le matin, j'ai couru chez le médecin qui m'a dit, je n'y comprends rien. Votre hernie a séché durant la nuit et je suis incapable de vous expliquer comment et pourquoi. La jeune fille s'enquiert alors. Mais quand est-ce que cela a eu lieu? Et elle réalise avec stupeur que c'est un instant précis où elle était ici en train de demander la guérison de son cousin. Elle tire alors de son sac l'image de Notre-Dame de Rocamadour, la regarde et se fait cette réflexion. Ce sont ses propres termes, je la cite. Ça marche grave. Cependant, cette jeune fille a une foi athée solide, elle n'en est pas ébranlée pour autant. L'année suivante, son copain qui est passionné de voile, c'est là que ça devient intéressant, on en arrive au bateau. Un rêve depuis longtemps, faire le tour du monde sur le petit voilier qu'il a lui-même fabriqué. Et bien sûr, pour que la croisière soit réussie, il ne faut pas qu'elle soit solitaire, il faut que la copine vienne à bord. Le problème de la copine, c'est que de 1, elle n'a absolument pas le pied marin, et de 2, partir en haute mer sur un petit rafiot bricolé par le copain, cela lui semble pure folie. Le copain lui fait comprendre que c'est ou la croisière ensemble, ou c'est terminé entre eux. Argument fort, elle embarque. Ils appareillent de Nantes, passent la péninsule ibérique, arrivent au large du Maroc, et là, pas de chance, en pleine mer, un cachalot leur casse la quille. Alors, sur une petite coque de haute mer sans quille, c'est le cas de le dire, vous êtes mal barré, et d'autant plus mal barré qu'une tempête qui devait bien sagement les rester localisés sur Gibraltar a la très mauvaise idée de descendre dans leur zone. Rapidement, Il voit le vent se lever, la houle se former, et en quelques heures, il se retrouve au milieu d'une mer déchaînée, avec des vagues ayant des creux de 30 mètres, chacune capable de les engloutir pour l'éternité. Le copain, au début, qui a fait « si je maîtrise la situation », vient rapidement retrouver la copine dans la cabine. « Non, je ne maîtrise plus rien, tout, j'ai affalé les voiles, on va crever. » La copine s'était autorisée un second acte de superstition de partir. Elle avait pris avec elle l'image de Notre-Dame de Rocamadour, ignorant d'ailleurs tout à fait que ça avait un rapport avec les marins. Elle dit à son copain « Écoute, on va mourir, autant faire les choses bien. Prions, bon réflexe. » Hélas, hélas, ils n'ont pas prié depuis fort longtemps. Ils ne se souviennent plus de leurs prières les plus élémentaires. Le Notre Père, le Je vous salue, honteux. Et surtout, ils ne se rappellent plus de cette prière qu'on leur avait appris au catéchisme, le SOS qu'on l'envoie au ciel, la prière des cas désespérés, le souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Prières assez compliquées. Ils sont malades comme des chiens, brinque-ballés dans tous les sens. La petite coque de noix craque de tous côtés. À chaque instant, ils s'attendent à la voir s'éventrer, à boire le grand bouillon et être bouffés par les crabes. Eh bien, c'est dans cet état lamentable de terreur et d'angoisse que pendant 3 jours et 3 nuits, ils s'acharnent pour retrouver un à un les mots de la prière. Après 3 jours d'efforts surhumains, ça y est, ils ont le texte, ils le disent, et là sentent une grande paix les envahir. Ils se disent, eh bien, c'est bon, à présent, nous sommes prêts, nous pouvons mourir. Seulement, le Seigneur en avait décidé autrement. Le vent se calme, la mer s'apaise, et ils parviennent à rejoindre tant bien que mal un port marocain. Lorsque les autorités portuaires les voient arriver de haute mer sur ce petit rafio sans quille, leur disent « Vous êtes toujours vivant ?» C'est un véritable miracle. Tous les bateaux qui étaient dans votre zone et qui étaient des bateaux de haute mer ont sombré. Il y a plusieurs morts, vous êtes les seuls survivants, bravo. Là, ils comprennent qu'ils ont un coup de pouce de la part du ciel. Terminez la croisière, barrez machine, ils prennent l'avion. Ils arrivent ici le 1er novembre, 2 minutes, jour de la Toussaint, assistent à la messe et vont trouver à la fin le recteur leur déclarant « Nous sommes les derniers miraculés de Notre-Dame de Rocamadour ». Ils racontent leur histoire, ils en font même une relation écrite et c'est ainsi que je peux vous la raconter. Mais cependant, cette jeune fille, elle avait toujours une question en suspens. Elle se disait « Mais comment se fait-il que moi, qui ne priais jamais, qui détestais la religion, qui bouffais du curé à tous les repas, comment se fait-il que moi, la Vierge, m'ai secouru ?» Le recteur lui a dit, eh bien, allez lui poser la question. Entre femmes, vous allez vous comprendre. Elle est donc venue à votre place. Et dans le secret de son cœur, elle a posé cette question. Pourquoi moi ? Et là, elle a reçu une réponse qui l'a bouleversée, qui a changé sa vie. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. La Vierge Marie est la mère de tous les hommes et comme la meilleure des mamans, elle veille sur chacun de ses enfants, non seulement pour les sauver des naufrages de la mer, mais surtout pour les sauver du naufrage éternel et les conduire au port du salut, le Christ Jésus, son Fils, unique sauveur de tous les hommes. À partir de là, eh bien, la foi de cette jeune fille a chaviré et elle est redevenue bonne chrétienne. Alléluia! A remarqué au fond de la chapelle un cahier sur lequel les gens inscrivent des demandes ou des remerciements. En 2006, vous auriez pu lire l'inscription suivante. « Je suis venu ici 3 fois prier la Vierge Marie pour avoir un enfant. J'ai eu des triplés. Merci Vierge Marie. » Alors faites attention à ce que vous demandez ici, hein. Soyez prudent et modéré dans les demandes. La maison n'est pas responsable des excès de grâce que vous pourriez recevoir. Avant de continuer notre visite sur le parvis de la chapelle Notre-Dame, je vous propose de prendre quelques instants de silence au pied de Notre-Dame, précisément afin que vous lui présentiez vos demandes. Voilà, donc en général, les visiteurs qui viennent à Rocamadour ont deux questions existentielles. Où est la Durandal, l'épée de Roland et où sont les toilettes ? Je n'y peux rien, ce sont les deux questions qui arrivent ici au top 50. Alors pour la réponse à la première question, où est la Durandal ? Je vous laisse trouver car c'est tout près d'ici. Le premier qui a trouvé a gagné. Effectivement, elle est au-dessus de nos têtes, à l'épée de Damoclès. Mais en fait, c'est censé être celle de Roland. Je dis bien entendu censé, car vous l'avez remarqué, c'est une épée médiévale du XIIIe siècle qui en aucun cas ne peut être l'épée de Roland, qui comme chacun sait, est un carolingien du 8e siècle. La légende raconte que Roland est pris dans le col de Roncevaux. Il est sur le point de succomber au coup des Sarrasins. Il ne veut pas que son épée dédiée à la Vierge tombe aux mains des infidèles. Il veut la briser en frappant un rocher. Mais au lieu que ce soit l'épée qui se brisa, ce fut le rocher qui se fendit. Pris de désespoir, il la jette dans les airs. Elle fait un vol plané de 350 km depuis le col de Roncevaux, arrive à altitude de Rocamadour, effectue un demi-tour droit et vient se planter dans la roche. Vous l'avez compris, on est en pleine légende. Ce n'est pas ce qui est le plus intéressant ici à Rocamadour. Je n'insiste pas davantage. À remarquer, tant que nous sommes sur le parvis de la chapelle Notre-Dame, la tombe de Saint-Amadour, alors en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Le corps de Saint-Amadour a été retrouvé très précisément sous le seuil de la chapelle de la Vierge. Mais vous imaginez que si on avait laissé un grand trou à cet endroit-là, cela n'aurait pas été très pratique, on se serait cassé la binette entrant la chapelle. Et donc on a préféré déporter la tombe sur le côté. Vous remarquerez aussi au passage que les gens jettent des pièces dans la tombe de Saint-Amadour. Cela ne sert à rien du tout. Si l'on veut des grâces, il faut aller demander à la Sainte Vierge. Cependant, je ne vous dissuade pas de jeter votre aumône, car régulièrement, nous ouvrons les grilles et nous récupérons le magot sans autre forme de procès, ce qui permet de continuer à entretenir le sanctuaire qui en a grand besoin. À remarquer, tant que nous sommes sur le parvis, les très belles fresques qui se trouvent au sommet du mur et qui représentent deux scènes archi-classiques de l'Évangile que vous allez immédiatement identifier. L'Annonciation, la Visitation, très bien. Admirez la qualité de conservation de ces fresques. Elles sont du XIIe siècle, elles n'ont jamais été restaurées. Pourquoi sont-elles si bien conservées ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont à l'abri des rayons du soleil une bonne partie de l'année. Par ailleurs, la position sous roche les préserve du ruissellement de l'eau de pluie. La hauteur dissuade les pèlerins d'aller les tripoter. Et enfin, les pigments qui ont été utilisés sont d'une qualité exceptionnelle. Le bleu qui forme le fond de la fresque, par exemple, est fait à base du lapis lazuli, pierre semi-précieuse que les bâtisseurs on fait venir d'Afghanistan au Moyen-Âge. Je ne sais pas si vous réalisez ce que signifie faire venir des pierres d'Afghanistan au Moyen-Âge. Bref, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont employé les choses les plus belles, les plus coûteuses pour la gloire de Dieu. Et en fait, dans ses plus grandes heures de gloire, tout le sanctuaire ici était absolument couvert de fresques multicolores. C'était une beauté à couper le souffle, une véritable féerie pour les yeux. Mais hélas, le temps a quelque peu outragé ces chefs-d'œuvre en péril. Il y a cependant de beaux restes. Ce sont nos trois squelettes ici. C'est une représentation archi-classique au XVe siècle qu'on appelle le dicte des trois vifs et des trois morts. Ce sont trois squelettes qui interpellent trois chevaliers qui ont disparu lorsqu'on a percé la fenêtre et qui disent, nos trois squelettes à nos trois chevaliers, « Nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. » C'est une façon percutante de rappeler aux pèlerins qui sont seulement ici de passage et que nous aurons tous un jour la fringante silhouette de ces charmants squelettes. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? Tel est le message subliminal contenu dans cette belle fresque, de nature à nous faire réfléchir sur le sens de la vie, le temps qui passe, et bientôt, la visite qui s'achève en nous dirigeant vers la chapelle Saint-Michel. Voilà, donc ici nous sommes dans la chapelle Saint-Michel. Savez-vous qui est Saint-Michel ?
Un archange.
Un archange, très bien. Vous connaissez la différence entre un ange et un homme ? Quelle est la différence entre un ange et un homme ? Un ange est un pur esprit, il n'a pas de corps, alors qu'un homme est une âme spirituelle dans un corps matériel. Et du fait de cette nature purement spirituelle, on les imagine volontiers dans les hauteurs. Et vous constaterez que la plupart des sanctuaires dédiés à des anges se trouvent sur des points culminants. Pensez bien sûr en France au Mont Saint-Michel, mais vous savez que le premier sanctuaire dédié à un ange se trouve au sommet du Mont Gargano, en Italie. S'il y a des Vendéens parmi vous, ils connaissent certainement Saint-Michel-Mont-Mercure, qui est le point culminant de la Vendée, au sommet duquel se trouve une église dédiée à Saint-Michel. Et vous le constatez ici, à Rocamadour, nous ne dérogeons pas à la règle qui veut que le sanctuaire le plus haut soit dédié à un ange, en l'occurrence à Saint-Michel, qui est représenté ici sur le vitrail central, ainsi que sur le bas-relief de l'autel. Alors vous le constatez, c'est un ange guerrier. Il porte une arme et il terrasse un dragon. Pourquoi est-il ainsi représenté ? Eh bien, pour le savoir, il faut se reporter aux premiers instants de la création. Les premiers êtres que Dieu créa sont les êtres les plus parfaits, les plus ressemblants à Dieu, les anges. Et parmi ces anges, il y en avait un qui les surpassait tous en beauté, en sagesse, en force, en intelligence. Cet ange, c'était bien sûr... Lucifer, parfaitement exact, et c'est précisément cette perfection qu'il a perdue. Il s'est enorgueilli, voulant en quelque sorte se faire l'égal de Dieu. À ce moment-là, un autre ange très puissant s'est interposé et a poussé ce cri. Qui est comme Dieu ? Ce qui se dit en hébreu Michel, ce qui a donné en français Michel. Michel repousse Lucifer et les autres anges rebelles devenus les démons. Désormais, lorsque vous croiserez un ange guerrier, vous serez impardonnable de ne pas immédiatement reconnaître Saint-Michel. Quel est le deuxième ange que nous avons ici sur notre droite et que nous avons déjà croisé plusieurs fois au cours de notre visite ? C'est l'ange Gabriel. Vous l'avez reconnu car sous ses pieds sont marqués Ave Maria. Ce sont les premières paroles qu'il a prononcées en arrivant devant la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. D'ailleurs, la toche bleue, couleur de la Sainte Vierge, le lys, symbole de la pureté, évoque bien celle qui fut l'Immaculée Conception. Et je n'ai pas besoin de vous donner le nom du troisième ange qui est ici, puisque vous savez que dans la révélation chrétienne, nous ne connaissons le nom que de trois bons anges. Tous les autres noms d'anges que nous connaissons sont des noms de démons. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais invoquer d'autres noms d'anges que ces trois noms d'anges. Alors quel est le troisième ange dont connaissons le nom ?
Raphaël,
exactement. Qui tient sous sa main un homme qui s'appelle Tobie. Tobie a reçu une mission bien délicate. Il doit partir dans un pays lointain dont il ignore le chemin pour épouser une femme qui est victime d'un sortilège. Si bien que tous les hommes qui l'épousent, le soir des noces, meurent. Elle a tout de même eu 7 maris jusqu'à présent. Vous le voyez, la mission est assez peu engageante. Mais heureusement, grâce à son guide céleste, eh bien, il va la mener à bien. Il va trouver le moyen de désensorceler son épouse, de la ramener saine et sauve dans son pays. Et de ce fait, l'ange Raphaël est devenu un peu le prototype de ce qu'on appelle les anges. Gardien. Nous avons tous un ange gardien qui a pour mission non pas de nous conduire dans un pays lointain pour épouser une femme ensorcelée, fort heureusement, mais pour nous conduire ici, là, précisément. Ici, c'est la porte du ciel. C'est le lieu du passage entre cette vie et l'autre vie. Vous le constatez ici sur la droite, Michel a troqué son épée pour une balance. C'est le lieu de la reddition des comptes. Lorsque nous mourons, notre âme quitte notre corps, c'est ça la mort, séparation de l'âme et du corps. L'âme paraît devant le Christ en gloire que vous avez ici dans la mandorle, le polylobé. Une lumière divine vient éclairer l'âme qui en un instant revoit toute sa vie. Et cette âme a alors une claire conscience de ce qu'elle a placé au sommet de son amour, du but suprême qu'elle s'est fixé et auquel elle a demandé de lui apporter le bonheur. Et selon la nature de ce but suprême, il va y avoir des destinations bien différentes. Première possibilité, cette âme sous la lumière de Dieu voit qu'elle a placé au sommet de son amour le Seigneur. Elle voit aussi que tout le mal qu'elle avait pu faire ici-bas l'a expié par ses prières, ses pénitences et ses bonnes œuvres. Cette âme est parfaitement pure, parfaitement sainte, et elle va directement entrer dans ce qu'on appelle la vision béatifique, la vue de Dieu, spectacle absolument éblouissant qui apporte un bonheur dont on ne saurait même pas avoir la moindre idée ici-bas. Et c'est bien sûr, vous l'avez compris, le sort le plus enviable. Deuxième possibilité. Cette âme sous la lumière de Dieu voit qu'elle a placé au sommet de son amour le Seigneur, mais elle voit aussi qu'en elle il reste du mal. Or, pas un atome de méchanceté ne peut entrer en Dieu. Elle va aller subir une bonne toilette spirituelle dans ce lieu qu'on appelle le purgatoire. Et après un temps plus ou moins long, selon le nombre et l'ampleur de ses péchés, elle entrera elle aussi dans la vision béatifique. Troisième possibilité, la catastrophe. Cette âme, sous la lumière de Dieu, voit qu'elle a placé au sommet de son amour autre chose que Dieu. Une créature quelconque qu'elle a divinisée, à laquelle elle a demandé vainement d'ailleurs de lui apporter le bonheur. C'est ça une idole. C'est faire d'une créature son Dieu. Alors quelles sont-elles ces idoles ? Elles sont innombrables. Mais je vais vous donner trois grands classiques d'idoles de l'humanité. Première grande idole de l'humanité, c'est l'argent. C'est genre Picsou, ou Harpagon s'il a un peu plus de lettres. Hein. C'est la personne qui vit toute sa vie pour l'argent, qui ne pense toujours qu'à en gagner davantage, qui n'en a jamais assez et qui est toujours prêt à faire tout un tas de magouilles pour s'en mettre plein les fouilles. Deuxième grande idole de l'humanité, c'est le pouvoir. Là aussi, si je cherche une référence littéraire de haute volée, c'est genre East No Good. Vous savez, celui qui veut toujours devenir calife à la place du calife. C'est en général le problème des hommes politiques, mais pas seulement. Ça existe dans tous les milieux, y compris ecclésiastiques. Troisième grande idole de l'humanité, c'est les plaisirs, c'est genre Don Juan. Alors là, j'ai pas besoin de faire de dessin, tout le monde comprend, sauf les plus jeunes peut-être, mais ça viendra, rassurez-vous. Eh bien, par le fait même, cette âme, en choisissant un faux Dieu, a rejeté le vrai Dieu. Et le Seigneur respecte sa liberté. Cette âme se dirige spontanément vers le lieu qui convient à son choix, qu'on appelle la séparation éternelle avec Dieu, qu'on appelle aussi l'enfer. Et c'est bien sûr la catastrophe à laquelle nos pèlerins ne veulent aboutir à aucun prix. Et ils vont venir ici recevoir un sacrement pour les fortifier pour le combat spirituel, le sacrement de confirmation. Car cette chapelle nous le rappelle, nous sommes en guerre, nous avons des ennemis redoutables et invisibles, les démons qui sont là pour nous tenter, nous faire pécher, nous perdre. Alors, si vous avez des doutes sur l'existence du démon, assistez ne serait-ce qu'une fois à un exorcisme, cela vous guérira complètement de votre incrédulité et vous donnera d'ailleurs peut-être un peu les chocottes. Mais la crainte est commencement de la sagesse, nous dit la Bible. Et puis, nous avons aussi, outre les ennemis extérieurs, les ennemis intérieurs, nous le sentons bien. Depuis le péché originel, il y a toute une ménagerie assez peu ragoûtante en nous. L'orgueil, l'égoïsme, l'avarice, la luxure, la colère, la jalousie, l'envie, l'assédie. Et on a donc besoin de faire des efforts pour ne pas se laisser entraîner du côté obscur de la force. Non, ça c'est autre chose, je veux dire, pour ne pas s'entraîner mal, faire des efforts, car le but, le bonheur, c'est Dieu. Et tous les actes que nous posons sont comme des pas qui nous conduisent au bonheur, si ce sont des actes bons, mais qui nous en détournent, si ce sont des actes mauvais. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Alors qu'est-ce que l'amour ? Parce que c'est un terme un peu galvaudé, on met tout et n'importe quoi à notre époque derrière ce mot. On demandait un jour dans un jeu télévisé, comme quoi on n'apprend pas que des bêtises à la télévision, bien qu'on en apprenne énormément, on demandait à des épouses quelle était la plus belle parole d'amour que leur avait dit leur mari. Et l'une d'entre elles a eu cette réponse fort intéressante. Elle dit, bien c'était une nuit, un de nos enfants criait, j'allais me lever pour voir ce qu'il avait, et mon mari m'a dit, bouge pas chérie, j'y vais. Belle parole d'amour, effectivement, parce que aimer, c'est vouloir le bien de l'autre et être capable de prendre sur soi des choses qui ne sont pas très agréables, comme se lever la nuit pour aller changer un enfant. Alors, avec tout ce que je vous raconte, il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas la foi, je ne sais pas, ce sont des choses qui arrivent. Alors, je viens vous le dire tout de suite, hein, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout, puisque cela peut changer. Et que cela doit changer. Et je vais vous donner un moyen simple de faire l'expérience de Dieu. Ce moyen, c'est une prière. On l'appelle la prière de l'athée. Qu'est-ce que la prière de l'athée ? C'est très simple, c'est pas cher et ça peut rapporter très gros. Cela consiste à dire, Seigneur, si vous existez, faites-le-moi savoir. 100% de ceux qui ont fait avec persévérance et insistance cette prière ont été exaucés. On a des exemples célèbres dans l'histoire de Charles de Foucault. Il avait très mal commencé sa vie. Il était militaire. Ce n'est pas à cause de ça qu'il est mal commencé, hein, puisque les militaires sont des gens très bien, comme vous le savez. Oui, mais ses copains de promo l'appelaient le porc. C'est pour vous dire qu'au niveau de la moralité, ce n'était pas exceptionnel. Lui, son bonheur, il ne cherchait pas dans l'argent. Grande famille, des châteaux en Espagne, des comptes en Suisse, bref, il n'était pas dans le besoin. Il ne cherchait pas non plus dans le pouvoir. Vicomte de je ne sais trop quel fief depuis des générations, pas besoin de courir après. Non, lui, son bonheur, il comptait le trouver dans les plaisirs. Et il y allait à gogo. Il mangeait les mets les plus raffinés. Il couchait avec tout ce qu'il trouvait. Et je suis persuadé que s'il avait eu Internet, il se serait repu les yeux de toutes les cochonneries qui traînent sur le net. Fort heureusement, il n'a pas eu cette tentation puisque ça n'existait pas à son époque. Bref, vous le comprenez, il ne faisait pas les pas d'amour vers le Seigneur, mais c'était un homme droit qui cherchait la vérité. Il disait, mais pourquoi je vis? Pourquoi j'existe? Cette vie a-t-elle un sens? Y a-t-il quelque chose au-delà? Il a fait avec persévérance et insistance cette prière. Seigneur, si vous existez, faites-le-moi savoir. Et il est devenu Saint Charles de Foucault. Vous voyez, dans la vie, l'important, ce n'est pas de bien commencer, mais c'est surtout de bien finir. Eh bien, voilà qui me donne le mot de la fin. J'espère vous avoir bien persuadé qu'ici, si on n'a pas le commentaire sur les lieux, on rate 99% de ce qui est intéressant. Vous êtes ici dans la maison de la Sainte Vierge. Je vous le rappelle, n'oubliez pas, avant de quitter le sanctuaire, d'aller faire votre visite dans la crypte Saint-Amadour pour l'entretien avec le Big Boss. Si cette visite vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir. Il y aura un petit panier au bas de l'escalier dans lequel vous pourrez faire un petit don. Si vous voulez, il n'y a absolument rien d'obligatoire. Je rappelle que la visite est visite et gratuite. Alors quand je dis un petit don, si vous faire un gros don, on n'a rien contre les gros dons, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne veux surtout pas limiter votre générosité. En tout cas, soyez remerciés d'avance de votre soutien qui nous permettra de continuer à accueillir dignement les visiteurs ici. Si vous voulez garder un souvenir de cette visite, si elle vous a plu, eh bien, vous pouvez en trouver le texte dans le magasin Le Mystère Rocamadour, Père Cestas Marie. Et moi-même, je me tiendrai encore pendant quelques instants sur le parvis de la chapelle Notre-Dame. Si certains veulent me dire quelque chose, eh bien qu'ils n'hésitent pas. En tout cas, je vous bénis du fond du cœur. Je vous rappelle qu'on a tous rendez-vous là-haut, alors pas de blague, hein.